jour avant même une nouvelle émission d'Hockey et Culture, Edgar Prato à l'antenne en direct sur le 84 de Radio Galère. Cette émission Hockey et Culture 139 est vraiment particulière. Elle est titrée Poésie en Pays de Verdon. Il s'agit d'un entretien que j'avais réalisé donc le lundi, je suis précis, 24 août 1998, il y a donc près de 25 ans, à La Palue-sur-Verdon, c'est dans les Alpes de Haute-Provence, donc avec un conteur, poète, autodidacte, Jean Covin. C'est une production APA, Edgar Prato, et qui est exclusive, je crois que c'est la première fois, peut-être la seconde, que je la diffuse à Marseille, parce qu'elle fut à l'origine diffusée par un média disparu maintenant. Il s'agit de Téléradio Île-de-France, qui était installée en Seine-et-Marne, et dirigée par Feu, puisqu'il est disparu, un bon ami, André Delachaux. Pour en venir au poète lui-même, Jean Covin est né et décédé à La Palue-sur-Verdon. Il était né le 4 janvier 1929, il est décédé le 20 mars 2007, fut boulanger comme son père, chauffeur de taxi, photographe, il en parlera d'ailleurs dans cet entretien. Il participa à des émissions de télévision, les anciens s'en souviennent, de Sylvain Augier et Daniel Gilbert, et c'était un ami de Marcel Cipion, qui est un auteur connu quand on s'intéresse à la région, du roman célèbre « Le berger des abeilles ». La boulangerie, parce qu'on va en parler de la boulangerie du village, la Paluarde et ses fameuses spécialités, notamment les fougasses aux anchois, entre autres, fut fondée par son père Paul en 1900, perdura d'abord avec Jean, le conteur que nous allons entendre, suivi par Bernard, fils de Jean, et après une fermeture temporaire à nouveau ouverte pour le bonheur des villageois et des touristes. Et je précise que le générique final, musical final, c'est une interprétation de Petite Fleur, interprétée par Daniel Sidney Béchette, son groupe, et qui était le fils de l'immense Sidney Béchette. Eh bien, Sidi, je te propose que nous lancions Poésie en Pays de Verdon.
Bonjour, Edgar Prato pour Téléradio Île-de-France. Nous allons faire aujourd'hui un point de rencontre avec un entretien avec un magnifique conteur régional. Il s'agit de Jean Covin. Nous sommes en Haute-Provence, c'est le lundi 24 août 1998, un temps splendide. Jean Covin est né il y a presque 70 ans, ici à La Palue-sur-Verdon, village isolé des Alpes de Haute-Provence, posé à plus de 900 mètres d'altitude près des impressionnantes gorges du Verdon. Fils de boulanger, il apprend ce métier et s'installe dans la boulangerie familiale en 1956. Celle-ci est mise en gérance pour des raisons de santé et Jean Covin devint en 1972 chauffeur de taxi sur ses routes au perché, presque par hasard. En prime, la passion de la poésie l'avait immergé dès 1958 et il se mit à chanter le pays du Verdon et sa région des Gavots basalpins. Jean Covin, bonjour.
Bonjour, monsieur Prato.
Jean Covin, en préambule, pouvez-vous me décrire la vie à La Palue pendant les années 30 et les années 40
Les années 30 et 40. Bon, cela se trouve tout à fait avant la guerre. J'étais encore un tout petit garçon qui est né d'une famille de trois générations de boulangeries. Voilà, nous étions six de famille, comme je vous ai dit, et ma vie s'est passée toujours à La Palue. Donc, toute ma jeunesse s'est passée à La Palue, et voilà que 1942 ou 43, je ne me rappelle plus, j'ai passé mon certificat d'études, et après, bien entendu, c'était la guerre, et je n'ai pas pu aller au secondaire, et j'ai dû apprendre le boulanger avec mon père, voilà. Et puis ensuite, je suis parti quelques années pour me perfectionner dans le pain parisien, comme on dit, les flûtes, le restaurant, et puis un peu sur la pâtisserie.
Alors, vous me parlez donc de votre premier métier, mais au préalable, justement, cette vie courante à La Palue, c'est-à-dire de vos voisins, des autres agriculteurs. Ils vivaient de quoi, ces gens-là, à cette
époque-là ? La Palue est un pays assez pauvre. Je vous dirais qu'il y a 200 ans, sur ma petite histoire en géographie, La Palue faisait 850 âmes. Et dans ma jeunesse, on était quand même encore 300 à peu près, dans les années 30, 300 personnes. Mais les gens vivaient de de ce qu'ils récoltaient sur place, enfin, du blé, des pommes de terre, tout ça. Et mon père faisait, on appelle ça l'échange blé-pain, c'est-à-dire on appelait ça la consommation familiale. Voilà.
Alors, ce métier de boulanger en campagne, vous me l'avez fait savoir hors antenne tout à l'heure, que vous étiez alors obligé d'aller chercher le bois pour chauffer le four dans la forêt. C'est quand même quelque chose d'étonnant. Bon, dans les grandes villes, généralement, on portait les stères de bois, il y avait des charretiers qui portaient ce bois, tandis que vous, vous étiez obligé, en amont déjà, d'aller chercher dans la forêt votre bois pour chauffer le four. Ouais.
À partir de 14 ans, mon père nous envoyait avec mon frère faire des fagots de genêt, des fagots de branches de pain pour chauffer le four. À cette époque-là, voilà, on cuisait le pain au feu de bois.
Et vous faisiez donc, je suppose, des réserves. Il y avait des stocks attenant à la boulangerie qui permettaient pendant X jours de pouvoir chauffer le four.
Eh oui, parce que l'hiver, quand même, autrefois, nous avions beaucoup de la neige à la palue. Mais à présent, les saisons ont changé. C'est vraiment ça.
Alors ça a changé pour quelle raison? Je pense le savoir, mais bon.
Je pense que l'atmosphère s'est réchauffée, moi je pense. Parce que, pour quelle raison? Hein? Parfois, on avait des 50 cm de neige, parfois 1 mètre de neige à certains endroits. C'était incroyable, quoi.
Et ça ne se produit plus depuis un certain
temps. Ça ne se produit plus.
Est-ce que le lac de Sainte-Croix, qui est à quelques dizaines de kilomètres, a pu avoir une influence,
non,
la retenue d'eau?
Je ne pense pas.
Je sais que ça provoque plus d'orages déjà.
On a toujours appelé les salles, les gens qui sont dans le brouillard là-bas. Et il y a toujours eu du brouillard, même sans eau, sans le lac, il y avait du brouillard.
Ah d'accord, c'est pour
d'ailleurs,
ça qu'il y
avait... D'ailleurs, on les appelle les
néblés. C'est pour ça qu'il y avait les fameuses résurgences des salles en Verdon, une résurgence très importante.
La résurgence de Fontaine-l'Évêque, on vous en a parlé.
Voilà, ça, là. Fontaine-l'Évêque,
c'était 8 à 10 mètres cubes d'eau qui jaillissait du sol. Moi, j'ai connu encore tout ce terrain comme ça, sans le lac, c'était une vallée très bonne, magnifique, qui était... On ramassait beaucoup de raisins, il y avait beaucoup de truffes, comme on dit chez nous en Provençal, les rabasses.
Les fameuses rabasses.
Ouais. Et oui, puis ça a créé quand même des drames. Hein. Sachez qu'il y a...
Est-ce que vous êtes quelqu'un qui suit le progrès, c'est-à-dire vous êtes convaincu de l'utilité de ce lac de Sainte-Croix, ou vous pensez que l'époque du temps jadis, il y a encore 30 ou 40 ans, sans cette retenue d'eau, avait aussi son intérêt?
Ben, avec son intérêt, il y a quand même beaucoup de gens qui ont dû partir et qui n'ont pas récupéré l'argent en valeur de leur propriété, vous voyez. Mais finalement, ce lac apporte au tourisme
un apport considérable.
Un apport considérable.
Oui,
il faut voir ça, vous êtes allé déjà.
Bien sûr.
Beaucoup d'étrangers qui... Ce lac est à présent est magnifique. Vous savez que ce lac a été mis en eau en 73. Hein?
Il y a 25 ans.
Ça donc. Fait 25 ans. Exactement en même temps que la route des crêtes de la Palue. Voilà, c'est facile à se rappeler.
Voilà. Au préalable, il n'y avait pas une route de crête à la Palue.
Non, la route des crêtes a été uniquement faite pour le tourisme, financée par le département et peut-être un peu la mairie, enfin, surtout le département.
Et je suppose que c'était. On a pris l'emplacement d'un sentier qui devait exister. Mais même pas.
Pas de partout. Il y avait simplement un sentier qui accédait de la Palue aux fermes de la Maline. C'est là où a été construit le chalet du Touring Club de France en 1930-1936. Voilà. Ça a mis 4 ou 5 ans pour le construire.
On va revenir un petit peu en arrière, et vous me l'avez déjà répondu tout à l'heure, à votre métier de boulanger. Vous participiez donc aux moissons chez des paysans locaux afin de réaliser un troc farine-pain contre blé, une méthode d'échange rural fort ancienne que je croyais disparue dès avant la révolution de 1789. Or, apparemment, dans les années 40-50, vous pratiquiez encore dans ces villages au perché le troc avec les paysans. Finalement, le papier-monnaie n'intervenait pas spécialement, puisque vous apportiez votre savoir-faire avec le pain, et eux, vous donnez le blé. C'est extraordinaire, ça.
Voilà. Nous allions ramasser le blé dans les campagnes, et par exemple, voilà, mon père donnait 100 kilos de pain pour 1500 kilos de blé. Vous voyez ?
Absolument, oui.
Après, c'est nous qui nous débrouillons. On se débrouillait avec le meunier, quoi. Le meunier prenait le blé et nous rapportait la farine.
Ah oui, il y avait un quote-part pour le meunier, voilà. Pour le boulanger, voilà. Pour les paysans, voilà. Qui avaient donné le
ça
blé.
Fait que les paysans faisaient exactement du blé pour leur consommation personnelle pour l'année. Et ils arrivaient à faire 2000 kilos de blé, par exemple, ou 1500.
C'était simplement pour pouvoir se nourrir, voilà, avoir son propre pain. C'était pas pour s'enrichir ou quoi que ce soit. Mais partant de là, vous étiez boulanger, s'il y avait eu des oliviers, le cueilleur d'olives aurait porté ça à la coopérative au moulin pour presser l'huile d'olive, et on aurait fait encore le même type de répartition, alors, pour chaque type de fruits, de légumes, de céréales. Et pareil, alors, pour un berger avec les moutons qui aurait pu troquer encore d'autres...
Ah oui, il y avait beaucoup de trocs à cette époque-là, c'était...
Alors, puisqu'on est en plein pays du Verdon, vous allez me parler de ces quelques villages et hamons qui scintillent autour des gorges du Verdon, que sont Rougon, Talloire, Aiguine, Trigance. Vous les connaissez mieux que quiconque, ces pays-là.
Mais je connais surtout les villages du côté du rive droite.
Alors, parlez-nous de ces villages rive droite.
Bien, nous avons Rougon, c'est un petit village très perché, Rougon, qui vient de Bûcher, l'étymologie, j'aurais dû porter. Oui, et puis, donc j'ai porté pendant 20 ans le pain à Rougon, les Chauvet, Châteauneuf, juste après la guerre. Parce qu'avant la guerre, les gens de la montagne descendaient avec leurs mulets. Ils venaient chercher le pain pour 15 jours, 3 semaines, même des fois un mois. Mon père faisait les belles boules ouvertes là, du bon pain au levain d'ailleurs, c'était pas le pain parisien.
Alors il y avait un secret pour faire un pain qui se conservait comme ça.
Il n'y avait ni levure, ni produits chimiques, ni acide ascorbique comme maintenant. Vous voyez, c'était le vrai pain qui se conservait. Au moins, même il y a des gens qui l'ont conservé bien plus longtemps. Il venait dur, mais ne moisissait pas.
Voilà, ça c'est très important. Peut-être que la couleur de la farine et de la mie, plus exactement, n'était pas aussi blanche que maintenant, mais la résistance aux contaminations, au pain qui durcit ou qui devient très mou, ça n'existait pas dans vos campagnes. Là, vous aviez un pain de qualité.
Quand j'étais jeune, j'avais 14 ans, eh bien, j'ai fait les premières moissons. Eh bien, je vais vous dire, quand on moissonnait, le paysan qui moissonnait, eh bien, moissonnait le blé mûr. Mais quand il y avait des taches où le blé n'était pas bien mûr, on les laissait. On le moissonnait 10 jours après, s'il faut, vous voyez.
Alors que maintenant,
maintenant, on moissonne tout d'un coup. C'est pour ça que le blé était beaucoup plus mûr, était plus résistant, enfin, donnait une farine plus sèche, plus... Tandis qu'à présent, il y a beaucoup de l'humidité dans la farine. Ils sont
bien
obligés
entendu. Et alors, maintenant, c'est la quantité, le nombre de quintaux qui compte à l'hectare, et ce n'est pas la qualité de la structure même de la farine.
Et puis de là, de Rougon, je portais le pain, les Chauvet. C'est un petit village, un hameau aussi. Alors, encore, quand je portais le pain, j'avais plusieurs stations, vous voyez, pour... Les gens venaient à certains endroits pour prendre leur pain. Alors ce jour-là, c'était la fête pour eux. Ils s'asseyaient tous autour de mon véhicule, là. Alors, tiens, l'un, il disait, porte-moi 2 kilos de sucre, l'autre, porte-moi 2 paquets de tabac. En fait, pour eux, c'était la fête, oui.
Et puis, j'étais un peu épicier, ambulant.
Alors, je faisais un peu tout, qui menait une bouteille de gaz, enfin, il fallait voir ça. Ces gens-là étaient... Mais ils étaient très, très gentils, ces gens-là. Ils avaient le cœur sur le...
Jean Covin, je suis sûr qu'il vous faisait des confidences, comme un pauvre facteur. Ouais. Vous étiez là, il me commandait un peu de sucre, puis vous parlez de ce qui se passait dans le hameau, je suppose.
C'était les nouvelles.
Les nouvelles.
Alors, quand j'arrivais, on me dit, alors, qu'il y a de nouveau à la Palue, en Provençal? Qu'est-ce qu'il y a de neuf à la Palue? Alors, ben, je raconte un peu les nouvelles. Je partais le matin à 10h, je retournais le soir à la tombée de la nuit, hein.
Alors, vous me parliez de Rougon et des Chauvet, là. Hein.
Chauvet.
Mais les Chauvet, c'est encore un hameau qui
c'est
est habité.
Encore un hameau, mais il n'y a presque plus personne. Il y a encore 2-3 personnes étrangères, c'est tout. Incroyable, ce village est tout tombé. Châteauneuf, pareil, Châteauneuf, c'est une ruine. Oh, on m'a fait un joli poème. Nous avons fait un joli poème avec une dame. Oh, juste 2 mots. Flux et reflux d'un village victime de la folie des hommes. Une plaine vallon se déroule à ses pieds, un flanc de la montagne lui offrit de nicher. Ils étaient 20 et 100 dans ces lieux lumineux, Bruni par le soleil, fouetté par les vents, enseveli sous les neiges, ses aïeux, nos ancêtres, et nos parents peut-être. Les mains nues, démunies, mais animées par l'effort, ont créé pour la vie qu'ils croyaient éternelle le toit de leur maison. Au fil du temps qui jamais ne s'arrête, Châteauneuf était né sur la petite crête.
C'est quand même drôle parce qu'on appelle donc ce village Châteauneuf, le nouveau château, et c'est un... maintenant un village en ruine.
Triste. J'ai connu le dernier habitat, voilà.
Donc, dans un tel haut pays, vous venez de le prouver, rude, âpre, secret, comment devient-on poète et conteur ?
Eh bien, voilà, je vais vous dire la raison. À un moment donné, j'ai fait des taxis, bien entendu, j'avais trois taxis qui tournaient.
On en parlera dans un instant.
Oui. Et puis, voilà que... j'avais beaucoup de soucis, j'avais la boulangerie, et mon fils qui était petit, ma femme qui était à l'hôpital, et puis voilà que je ne dormais plus. Alors, c'est la poésie qui m'a...
Qui votre m'a thérapie, rendu, en quelque sorte.
Voilà, c'est un bon... La poésie est un bon remède pour dormir. Au lieu de compter les moutons, voilà, je rêvais. D'ailleurs, de tout jeune, j'ai aimé la nature, j'aimais les récitations, et voilà, c'est ce qui m'a fait donner la poésie. Voilà, c'est la nature qui me parle.
Mais Jean Couvin, puisque vous aimiez la poésie naturellement, vous avez aimé les grands poètes des temps jadis, mettons Verlaine, est-ce que vous avez aimé Baudelaire ou d'autres grands poètes du 19e ou même plus récents?
Mais non, mais moi je n'ai même pas connu ces poètes, enfin j'en ai entendu parler, mais moi toute la poésie que j'ai, c'est toute la poésie locale, c'est de la poésie du Verdon, c'est vraiment centré cette poésie que j'ai appris, que j'ai composé certaines.
Mais vous avez été sans doute inspiré par d'autres conteurs pendant les veillées d'hiver, et est-ce une tradition orale comme dans toutes les campagnes de France jadis? Parce que vous alliez sans doute vous rassembler, des paysans avec d'autres paysans, il y avait une petite fête pour, que sais-je, une communion, et dans cette veillée, je pense que même quand vous étiez jeune, vous avez entendu d'autres habitants du village, ou donc du Haut-Pays Gavot, à leur tour, raconter des histoires, ça peut-être était quelque chose qui a été une grande inspiration pour vous. Peut-être. Vous avez peut-être des souvenirs. Peut-être. Est-ce que vous vous souvenez d'anciens, comme on dit, qui, devant le feu, devant l'âtre, racontaient des histoires?
Voilà, je me rappelle d'un nommé qui habitait pas loin de la maison de mes grands-parents, qui était poète d'ailleurs. Et voilà. Il contait des histoires quand il venait dans les veillées chez nous voir. Et nous allions chez le grand-père, chez la grand-mère, voilà. Et là, ben finalement, cette envie un peu de composer, d'aimer la poésie.
Oui, parce que ça marque l'enfance, et généralement, si on est prédisposé à ce genre de choses, on va continuer dans ce sens. Et vous avez connu le tumultueux Verdon tout jeune, avec son courant, ses tourbillons, ses abîmes insondables. Ne vous a-t-il pas d'abord effrayé pendant votre enfance? Parce que quand on est jeune, quand on est un enfant, qu'on arrive à ces merveilleuses gorges du Verdon, c'est quand même, je crois, les camions, vous allez nous en parler, les plus impressionnants d'Europe. Ça fait peur quand on est tout petit.
Exactement, ça fait peur. Moi, je vais vous dire, les premières fois que j'avais 8 ou 10 ans, eh bien, c'était un monsieur qui nous avait amenés. Il s'appelait Désiré, il m'avait mené sur les abîmes du Verdon. Il m'a dit, tu vois, mon petit, il faut se coucher parce que là-dessous, il y a 500 mètres à pic. Et vous voyez, j'en ai encore le frisson de la première fois qu'il m'a amené là-bas. Et puis alors après, c'est une grand-mère qui nous a menés dans les gorges, une dame qui s'appelait Anaïs, qui habitait le chalet de la Maline et qui nous a fait faire le tour complet des gorges. Juste après l'ouverture du sentier Martel, donc 1930. Voilà.
Puisque vous me parlez du sentier Martel, les auditeurs de la région parisienne pour qui nous travaillons connaissent peut-être pas le périple de ce sentier Martel et qui était M. Martel qui, je crois, dès 1905, a ouvert ce fameux sentier.
Voilà, et bien je vous dirais que mon plus loin tout souvenir remonte à la mort de M. Isidore Blanc. Isidore Blanc était un instituteur à Rougon qui a descendu le canyon avec Martel, spéologue, géologue, le 15 août 1905. Disons qu'au siècle dernier, le Verdon était pour ainsi dire inconnu de l'homme. Je vais vous conter juste quelques couplets d'un poème qui a été composé par M. Isidore Blanc, dédié à M. Schex, président du Touring Club de France en 1900. Dans ce poème, vous allez imaginer ce Verdon. Ô Verdon, impétueux torrent, aux eaux tumultueuses, qui nous dira jamais les sinistres combats, les furieux corps à corps qu'autrefois tu livras, pour frayer à tes flots, à tes ondes rageuses, à travers les flancs des vieux monts, un passage étroit et profond. Jusqu'ici, tes beautés sauvages et sublimes, qu'un long voile caché au regard des humains, dormait leur long sommeil, que berçaient les refrains des flots se débattant au fond des noirs abîmes. L'écho nous répétait pourtant, des érèbes, le bruit grondant. Les bruits des profondeurs effrayaient nos ancêtres, plus que les bruits du ciel, et nul n'osait descendre là-bas, où le diable logeait, entouré de dragons, de sorciers, de spectres, qui tramaient des complots hideux dans ces lieux noirs et ténébreux. Celui qui dirigeait en ce temps la nature survint le 15 août 1905, fête de la Madone, et par l'aide des saints parcourut en 3 jours l'infernale Cassure, jetant dans les flots de l'émute la phalange de Belzébuth.
Ben là, franchement, bravo, parce que c'est joliment dit, ça nous donne une envie de mieux découvrir ce Verdon, mais dites-moi, il y a eu quand même sans doute, je pense, à travers ces exploits de Martel et d'autres, aussi des catastrophes. Je pense qu'il y a eu des malheurs pour les premiers explorateurs, les premiers spéléos, les premiers alpinistes qui sont allés pénétrer dans ces abîmes insondables du Verdon qui effrayaient jusqu'au siècle dernier. Vous devez avoir certainement bien des souvenirs sur ces catastrophes-là.
Souvenirs. Mon plus loin souvenir, c'est la mort de l'abbé Pascal au lieu dit la mescla. La mescla qui veut dire le mélange de l'Artubie et du Verdon. La mescla, c'est un mot provençal, italien, espagnol aussi. Alors, ce abbé Pascal, qui est décédé là, on l'a retrouvé un an après, vous vous rendez compte ? Vous fûtes spéologue et découvreur d'abîmes, le mont Sainte-Victoire vous livrait leurs secrets. Il restait le Verdon et ses gouffres intimes, canyons creusés par des millénaires trajets, et vous avez scruté ces sauvages goulets, d'où l'on ne voit le ciel qu'à des hauteurs sublimes, mais le torrent jaloux que l'on explora ses gourds, vous engloutit loin des cités des bourgs, vous dérobant un an aux yeux de votre mère, mais voici qu'une plaque est mise à la mescla, pour qu'aux passants émus, elle dise, c'est là que s'envola son âme au séjour de lumière.
Alors il y a ce terrible incident de la mort de l'abbé Pascal en 1930, et puis après, dans les années 40, ou je crois au début des années 50, vont être construits en amont, du côté de Castellane, plusieurs barrages qui vont changer le cours de la rivière.
Exactement, c'est l'usine de Castillon qui occasionne des crues irrégulières qui dérangent les touristes, ne sachant des fois pas, les touristes s'engagent avec peu d'eau et puis voilà que l'eau monte et souvent il y a des accidents de kayak, des gens qui descendent en chambre à air, vous voyez.
Des inconscients quand même aussi. Inconscients. Oui, parce que si on descend avec une chambre à air et que l'eau monte de plusieurs mètres cubes, vous avez donc à votre manière dompté le torrent rebelle avec des mots. Comment travaillez-vous? Prenez-vous des notes pendant vos promenades sur les bords de la rivière, par exemple? En fait, comment procédez-vous pour vous être inspiré et créer ces poèmes autour du Verdon?
Bien là, disons que j'ai eu une chance terrible de trouver la légende du Verdon qui a été composée par M. Isidore Blanc, qui retrace le Verdon de sa source jusqu'au lac de Sainte-Croix. Et alors là, on retrouve tout ce qu'on voit dans le Verdon. Par exemple, couloir Sanson, j'ai trouvé ça moi-même, c'est des têtes d'éléphants, vous voyez, des têtes de lions, peut-être de babouins, on trouve beaucoup de ressemblances, dans les rochers, beaucoup de ressemblances à des animaux.
C'est-à-dire que la nature a sculpté ces rochers, ouais, l'érosion, voilà, de telle manière que la personne qui passe peut être inspirée, voir un sphinx, voir une tête de lion et de différents animaux. Mais je pense aussi qu'il y a la lumière qui a une grande importance, ce sont les moments du jour ou de l'année.
Exactement.
Et ça, ça joue un rôle.
Et vous savez qu'à l'entrée du couloir Sanson, comme on appelle ça, la raison, vous ne la savez pas. La raison, eh bien, dans la grande paroi du Grand-Duc, eh bien, il y a une cariatide. On distingue bien la tête, le buste et les jambes, qu'on a appelé le couloir Sanson.
De Sanson et Dalila.
De Sanson et Dalila. Ça, c'est, je crois que c'est M. Isidore Blanc qui l'avait remarqué. Il a dit simplement, seul un Sanson pouvait ouvrir cette muraille au choc de l'eau fougueuse sur le flanc du canyon de son torse bombé. Il en forgea la clé, hausse encore le couloir de son immense taille, au-dessus du chaos de rocs et de broussailles, né sous le ciel de pourpre. Sans doute a-t-il connu les monstres fabuleux qui peuplaient la vallée tout à l'avant du monde. Plus ancien que le sphinx, gardien de l'avenir, il désire répondre aux visiteurs du monde que ses yeux morts ne les voient plus venir.
Alors des coins, vous êtes en train de m'en compter un, des coins réputés tels que le belvédère de Mérastre, la falaise des Cavaliers, le balcon de la Mestla, vous m'en avez parlé il y a un instant, le point sublime ou le sentier Martel dont on parle tant, quels sont vos préférés?
Eh bien, mon circuit préféré est donc le couloir Sanson, qui est magnifique, avec ses falaises de 500 mètres. On appelle aussi le Trescaire, l'escalès qui vient de échelle, escalader. Vous avez la Mescla, Mescla c'est le mélange de l'Artubie du Verdon. Vous avez le plan de Camp Juers qui vient de Camp de Jules César. Vous saviez-vous? Camp de Jules César.
Je sais qu'il y a surtout des militaires maintenant, mais je ne savais pas que Jules César, il y a 2000 ans, il y avait stationné.
Eh oui. Alors, avant, tout à coup, la Mescla. Site féerique, l'Artubie qui s'embrouille, m'arrive dépité d'être souvent à sec pendant les mois d'été dans un vaste canyon profond et chaotique. Tout en haut du rocher se trouve un vaste plan. Sur les bords escarpés, aux époques lointaines, je vis souvent surgir des légions romaines établies en ces lieux dans un immense camp. Issan et les stelliers, désertiques paysages, j'aime votre silence et vos coins ténébreux, où croient le chêne vert et le lierre orgueilleux, et sur les rocs branlants, le frêne au beau feuillage.
Mais dites-moi, est-ce qu'on a fait des recherches archéologiques pour retrouver donc les traces, ou ce sont des écrits qui prouvent que Jules César a stationné là, il y a, en Gaule, il y a plus de 2000 ans? Alors, puisqu'on parle de ce camp de Camp Juers, on pourrait parler, bon, et très épisodiquement, très momentanément, des militaires qui s'y sont installés. Tiens, là, est-ce que c'est un plus ou un moins? Moi, je sais que quand je suis venu dans cette région pour la première fois, il y a quand même une bonne trentaine d'années, on allait à Vérignon. À Vérignon, où il y a de très bons champignons, mais il faut pas trop le dire. Et à côté de ce magnifique bois de chêne et de ce château, la route continuait et traversait tout ce plateau qui maintenant est militaire et fermé. Vous l'avez bien connu, ce secteur-là.
J'ai connu aussi, voilà, le camp militaire de Camp Juers. Il y a le petit plan de Camp Juers et le grand plan de Camp Juers. C'est vraiment un paysage lunaire. J'ai eu l'occasion de le traverser avant que les militaires soient là. C'était magnifique.
Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des bergers, il y avait des troupeaux.
Il y avait des bergers, malheureusement, qui ont dû partir parce que c'était 36. L'armée occupe 35 000 hectares, hein, vous le savez.
Je crois que c'est un des plus grands camps de France, si ce n'est
le
plus grand.
Eh oui. Et environ 5 à 6 000 soldats. Voilà.
En permanence stationnés là. Alors on va changer un petit peu. Vous pratiquez également, et ce avec réussite, ainsi qu'avec une belle technique, la photographie paysagiste, évidemment, des hauts plateaux, du Verdon, des transhumances. Quand vous est-il venu cette autre passion?
Eh bien, cette passion m'est venue, je vais vous dire, mon beau-père qui habitait l'auberge du Point Sublime, là-bas, était un amateur photographe. Deuxièmement, ma femme était aussi photographe. Et puis voilà que moi, je suis venu photographe.
Naturellement.
Je n'y comprends absolument
rien. Mais c'est extraordinaire. Mais
on me dit, vous avez le coup de fusil. Je fais des photos magnifiques, vous les aviez vues, je crois.
J'en ai vu quelques-unes, et là, je suis très étonné. Vous me parlez que vous n'avez pas de technique. Alors, de façon innée, c'est pas possible. Vous devez choisir votre moment, parce que la lumière est d'une importance extrême dans ce type de photographie paysagiste. Or, vous réussissez des positionnements d'angle sur des paysages, oui, mais souvent vous faites intervenir aussi des animaux, il y a des paysans où on voit donc des bergers. Et là, bon, il faut avoir le coup d'œil, c'est le cas de le dire, savoir appuyer sur le déclencheur au moment voulu. Alors, voilà, c'est l'histoire d'une passion.
On m'a dit que c'était un don, que je savais trouver l'angle de la lumière, quand on est un peu poète, je crois que c'est...
Et vous, vous demander avec quel type d'appareil vous travaillez?
Voilà, je travaille avec... Je travaille donc avec un Contessa Zeiss. C'est un appareil malheureusement que j'ai tombé et que je l'ai cassé.
Alors, mais c'est un appareil que vous aviez depuis fort longtemps.
Depuis fort longtemps, c'était un cadeau de mon beau-père. Mon beau-père me disait toujours, toi qui circules en taxi, tu vas d'un côté de l'autre, je te fais cadeau de cet appareil, mais je te fais voir comment il faut faire. Et puis voilà, je suis venu photographe amateur comme ça.
Et je crois que vous avez d'autres boîtiers, il me semble, d'autres marques,
oui,
d'autres appareils.
Un Exalta et un Kodak, deux Kodak même.
Oui, enfin, ce sont des appareils que vous avez déjà depuis plusieurs décennies. Oui, donc je suppose que vous n'aimez pas trop les techniques modernes.
Manuel.
Oui, voilà, tout en manuel. Vous n'aimez pas les techniques actuelles, où il y a même des computers qui sont montés sur les appareils photos, où en fait, il faut être ingénieur pour savoir le faire fonctionner en manuel. Tout ça, vous en foutez, c'est la résultat, la qualité. Je peux vous demander quand même quel type de pellicule, de sensibilité vous utilisez,
voilà,
pas la marque. La marque m'intéresse pas, la sensibilité que vous utilisez. 200 ASA, 400
Non, 200 ASA, 100 ASA, ça dépendait un peu. Voilà.
Est-ce que vous avez, tiens, ça me vient à l'esprit, il doit y avoir de magnifiques orages l'été sur le Verdon. Est-ce que vous avez essayé de faire des photos de foudre qui tombe?
J'ai essayé, mais c'est très dur. J'ai pas pu réussir.
Il paraît qu'il faut travailler très longuement sur pied en pause. Et ça peut donner des résultats extraordinaires.
J'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai aucun cliché qui marque vraiment
l'impact
de l'éclair.
Oh, mais comme vous êtes passionné là aussi, un jour vous y arriverez à figer sur la photographie les impacts de foudre et d'éclair.
Par contre, j'ai un arc-en-ciel sur le village de Moustier.
Ah,
vous l'aviez vu ça?
Non. Ah, pas encore, mais je ne saurais tarder de le voir. Alors je suppose que vous avez bien connu Marcel Cipion, le berger des abeilles, fameux pour ses romans naturalistes et qui arpentait perpétuellement le plateau de Moustier-Sainte-Marie. Vous venez de m'en parler tout près d'ici. Parlez-moi de votre amitié avec Marcel Cipion, puisque vous devez le connaître.
C'est un gars que j'ai connu il y a fort longtemps, même peut-être un peu un ami d'enfance, puisqu'il est à peu près de mon âge, et il était berger sur les montagnes. Il a composé d'ailleurs un très beau poème sur la transhumance.
Marcel Cipion, justement, ce beau nom de berger des abeilles, c'était son fameux roman qui a tant marché dans les années 70. Il est un peu plus âgé que vous. Et je sais que lui, il a arpenté, non pas, et très exactement, les bords des abîmes du Verdon, mais les hauts plateaux derrière Moustier-Sainte-Marie, où se trouve le fameux Mouro de Chagnier, le Chiron, les gorges de Trévins, Majastre, et puis également un village qui était abandonné, que j'ai connu il y a 20-25 ans, qui s'appelait, un nom incroyable, Le Poil.
Le Poil.
C'est connu, vous, Le Poil aussi. Et maintenant, on a fait un gîte rural. Et alors, qui nous fait parler de berger des abeilles, nous fait parler et nous fait penser aux bergers, aux moutons, aux transhumances. Et je crois que vous avez un très beau poème sur la transhumance.
Eh oui. Les voilà, les troupeaux qui viennent de Provence. Un groupe d'ânes gris lentement les devance, l'air fourbu, tête basse, avec les bas chargés des manteaux des bergers. Parfois l'on voit frémir où ces couvertures, qui donc au fond des sacs aux larges ouvertures, s'agitent en soubresaut de blancs petits agneaux, qui sont frères jumeaux. C'est comme un nid douillet qui tendrement les berce, souvent d'un cri plaintif leur frêle voix qui perce, appelle la brebis qui leur donna le jour et les couve d'amour. Voyez comme ils sont là, ces moutons qui cheminent. Bergers, faites la pause, et qu'à l'ombre ils ruminent. Voilà 9 jours déjà qu'il a quitté la croix, votre pauvre troupeau. Il n'a pour manger que l'herbe de la route. À défaut des prévères, il faut bien qu'il abroute. Mais elle est si poudreuse au bord du grand chemin qu'il ne mange à sa faim. Par la marche altérée, le troupeau n'a pour boire que les fossés taris et l'eau stagnante et noire. Mais voici que vont jaillir les flots sur les sommets. Tendres brebis, chers agnelets, les montagnes sont là, vous allez les atteindre. Encore un peu d'effort et cessez de vous plaindre. Là-haut, c'est l'herbe fine et le flot toujours pur dans ce beau ciel d'azur. Et les bergers, vieillis dans leur métier de pâtre, ont entrevu de loin le verdoyant théâtre où s'écoule leur vie en pleine liberté durant les jours d'été. Ils brûlaient dans la croix les importuns moustiques, piquaient inassouvis leur aiguillon caustique. Sur le brun épiderme où perlait la sueur, ici c'est le bonheur. Nul insecte ne vient au pli du moustiquaire harceler le berger qui s'endort solitaire. C'est le calme absolu, le silence et la paix des alpestres sommets.
Dites-moi, Jean Covin, est-ce qu'il y a encore des transhumances du côté de chez vous ?
Ben, on a encore la chance d'en voir une ou deux, mais ce n'est plus comme autrefois. Autrefois, c'était une dizaine de transhumances qui passaient, qui montaient donc la veille pour la Saint-Jean, le jour de ma fête. Et la veille, souvent passait le troupeau de M. Hugues, 3500 bêtes. Et alors je vais vous raconter, c'est dans ce troupeau, il y avait toujours 7, 8, 10 ânes. Et puis un beau jour, je vous parle de 20 ans en arrière, j'étais devant la boulangerie et je donne du pain aux ânes. Eh bien écoutez, chaque fois que les ânes passaient, qui remontaient ou qui redescendaient de la transhumance, les ânes se mettaient tous en ligne devant la boulangerie et ils attendaient leur pain.
Comme quoi, un âne, ce n'est pas si bête que cela, ouais. C'est le cas de le dire, ça c'est extraordinaire. Et alors, puisque vous me parlez de ces transhumances, ça me fait penser, on a parlé du berger d'abeille avec Marcel Cipion, et il y a aussi un grand écrivain que vous devez connaître, qui a écrit, c'était l'un de ses premiers romans, c'était Le Serpent d'Étoiles, c'est Jean Genet. Je suppose que Jean Genet, oui, vous a passionné quelque part,
vous
aussi.
Il m'a passionné, parce qu'avec les films que nous avons vus, qui correspondent exactement à ce que j'aime, notre belle Provence, les oliviers, enfin la transhumance, puis le soleil, les cigales, tout ça c'est formidable. Ça nous transperce.
Vous l'avez un peu connu, Jean Genet, vous l'avez rencontré ?
Non, je ne l'ai pas connu, moi. J'ai entendu parler.
Parce qu'il allait très régulièrement à Gréoux-les-Bains pendant près de 30 ans faire sa cure pour les rhumatismes. Voilà. Vous auriez pu le connaître, c'est pas loin d'ici,
ça. Oui, j'étais encore jeune, je ne sais pas comment je me suis débrouillé de ne pas le connaître.
Alors, dites-moi, on parlait des animaux, des moutons, des transhumances. Est-ce que vous avez, maintenant encore, une basse-cour, par exemple ? Est-ce que vous avez eu des animaux divers chez vous ? Est-ce que
Moi, non, pas trop, parce que avec le métier que j'avais, je ne pouvais pas trop m'occuper entre la boulangerie et les taxis. J'aurais toujours aimé, bien entendu, j'aurais aimé avoir des moutons, des ânes, des chevaux, mais des poules, des lapins.
Ça s'est pas passé.
C'est plutôt mes parents qui tenaient des poules, des lapins. Voilà, ça.
Est-ce que vous êtes chasseur ? Vous l'avez
un
été ?
Un petit peu, oui. Je chasse les grives, là. Les bonnes grives aux genièvres, là. Ah, l'hiver, là. Un bon salami sur du bon pain au levain, là. Hein, bien grillé, là. C'est pas mauvais, hein.
Vous faites le passage comme
les chachas.
Les chachas. C'est un passage, vous faites le passage quand les oiseaux
arrivent. Nous,
voilà.
Ils
restent sur place.
Ah oui, ils restent parce que la Palue, c'est un village où il y a beaucoup de bois de pin et puis il y a beaucoup de genièvres. Et les grives sont friandes de ça et puis elles descendent dans les prés dans l'après-midi pour boire, pour manger la vermille aussi. Et j'étais toujours passionné des grives. J'avais même à un moment donné des appelants.
Ah. Vous travaillez avec la glu, alors ?
Non, moi, je ne faisais pas la glu. C'est un ami qui me... On avait des appelants, quoi.
Et voilà, étiez un poste, vous étiez au poste et vous attendiez le passage des grives.
L'année des grives. Autrefois, il y avait beaucoup de lièvres, il y avait des perdrix, mais à présent, c'est en voie de disparition. Et je ne sais pour quelle raison, mais fait. Et de toute façon, on ne ramasse plus du blé à la palue. Avant, on ramassait quand même encore 40-50 tonnes de blé dans le village, mais maintenant, c'est fini.
Là, c'est essentiel. La perdrix vient après la moisson pour encore picorer ce qui reste de grains. C'est évident que les perdrix, qu'il n'y a plus ce type de champs, elles disparaissent. Mais vous pratiquez aussi un peu de, faites un peu de pêche, cueillette de champignons.
Champignons, la Palue, c'est le pays des champignons. Hein. Les bons champignons, alors je vais vous dire, autrefois, dans mon fournil, les gens nous portaient les plats pour cuire des poulets. Le dimanche, les gens portaient les tomates farcies. Des fois, j'avais dans mon fournil 40-50 plats pour les gens.
Dites, c'est presque l'heure d'aller déjeuner, là, vous nous donnez appétit. Hein.
Alors, les gens portaient des gros plats de champignons, et puis quand ils étaient cuits, vous savez que le champignon, il diminue de je ne sais pas, peut-être
80%.
Oui. Alors, les gens arrivaient, ils regardaient ces plats de champignons et s'imaginaient que j'en avais mangé. Mais du tout, j'ai dit, comptez-les, messieurs, dames.
Alors, vous avez été invité, puisque bon, là on fait une émission de radio, à plusieurs émissions de télévision avec Sylvain Augier, Jean-Pierre Pernaud, Daniel Gilbert. Racontez-nous ces expériences. Ça s'est passé quand ?
La première fois, ça s'est passé au Point Sublime, c'était avec Daniel Gilbert, midi première. Vous vous rappelez de cette émission ?
Bien sûr.
Voilà, et puis j'avais un ami qui s'appelait Camille Raphaël, qui avait été engagé, et comme j'étais avec mon ami, tout d'un coup on m'a dit, tiens, toi qui es poète, raconte-nous une histoire sur le Verdon. Alors je n'avais dit qu'un tout petit poème, j'avais dit simplement, ô gorge du Verdon, abîme insondable, gouffre toujours béant, qui donnait le frisson, qui confondait les sens et troublait la raison, vous me faites songer au dragon redoutable.
Mais vous êtes intarissable, Jean Covin. Si je vous parle des amandiers, vous allez me raconter un poème sur les amandiers.
Oui, je vais vous dire, autrefois, les gens vivaient avec... à la Palue, il y avait beaucoup des amandiers, et puis sur la ferme de la Maline, là-bas, des amandiers qui étaient plantés même sur le bord de l'abîme. Et en 1920, je pense, M. Isidore Blanc avait composé un joli poème sur les amandiers de la Maline, que voici. Les amandiers de la Maline. Là-bas, au pied de la colline, sur un vaste plateau désert, l'été comme l'hiver, campent les amandiers de la Maline. On croirait voir un régiment massé sur le bord de l'abîme, attendant le moment sublime de bondir enfin en avant. Hélas, beaux amandiers sauvages qui frissonnaient au moindre vent, votre consigne est seulement de lutter contre les orages. Ceux qui jadis vous ont planté en ces solitaires rivages furent certainement des sages qui vécurent à vos côtés. Et compagnons de leur misère, vous les nourrissiez de vos fruits, mais hélas, ces hommes depuis ont mordu la poussière. Et vous êtes demeurés, battus des vents et de l'orage, là-bas sur ces tristes parages, vieux amandiers abandonnés. Votre sort est digne d'envie, car vous vivez en liberté sur votre plateau dénudé, beaux amandiers que l'on oublie.
Alors, qui dit amandier dit forcément amande, et vous étiez boulanger, mais vous étiez également, pâtissier. Est-ce que vous avez préparé, les amandes et du miel, on fait du nougat, est-ce que vous prépariez ça dans votre boulangerie?
Exactement, nous faisions ça, et mon fils continue la tradition.
Ah, vous avez des spécialités là-bas à la Palue, dans votre boulangerie?
Oui, vous pouvez venir à la boulangerie Covin, vous trouverez beaucoup de spécialités là-bas. Mon fils était professeur de boulangerie, et il a continué, et il a pris la succession, quoi. Mais il s'est perfectionné en beaucoup de choses.
Voilà. Est-ce que l'on prépare des fougasses aux anchois? Est-ce que l'on prépare ce genre de choses?
Notre spécialité, c'est la fougasse à l'anchois, faite avec le pain au levain. Alors, nous écrasons de l'ail dans un mortier où on faisait l'ail au lit. Ensuite, on écrase des anchois que nous avons fait dessaler la veille. Ensuite, nous faisons une bonne pommade avec de la bonne huile d'olive de Provence. Et puis, étalée sur du bon, de la bonne pâte au levain, croyez-moi que c'est...
Et ça, je suppose que là, nous avons quelques spectateurs qui nous écoutent pendant que nous enregistrons cette émission, que ce sont des chasseurs. Ils se voient déjà avec la besace et la bonne fougasse le matin, allant à la chasse au chacha, justement. Alors, on a parlé donc de Daniel Gilbert, bon, Sylvain Rougier, je suppose que c'est l'émission Faut pas rêver.
Faut pas rêver, oui. Là, on m'a demandé d'accompagner, justement, leur équipe dans tout le circuit du Verdon. Et voilà, et alors après ils ont passé ça à la télé, mais malheureusement ça n'a pas duré trop longtemps.
Oui, il y a eu des coupures, vous pensez que ce serait
dommage.
Plus long.
Beaucoup m'ont téléphoné, m'ont dit avec tout ce que vous savez, monsieur Covin, on a été...
C'est obligé de réduire considérablement, ils sont toujours minutés par le temps. Et le fait de dire qu'ils sont minutés par le temps, ça m'amène à vous poser une question que j'aurais dû poser dès le départ. Quel regard avez-vous de ce monde moderne, vous qui êtes très éloigné avec votre monde intérieur, du Verdon, de la poésie qui est un monde de tradition? Quel regard vous portez sur ce qui se passe dans les grandes villes et les grandes mégapodes?
Et bien entendu, il y a le retour à la montagne, mais à la campagne. Mais je m'aperçois que beaucoup de touristes sont pressés dans un pays pareil. Moi qui circule en permanence dans mes gorges du Verdon, je roule à 30 à l'heure pour toujours admirer ces gorges admirées. Et beaucoup de touristes qui veulent toujours passer devant, ils ne savent pas regarder. Je peux dire qu'il y a bien le 50% qui ne savent pas apprécier la belle nature que nous avons dans notre Verdon.
Alors donc ce sont des gens pressés, bien entendu. Vous-même, est-ce que vous voyagez? Est-ce que ça vous arrive d'aller visiter d'autres beaux coins de notre pays, puisqu'il y en a de si beaux en France, on n'a pas besoin d'aller ailleurs?
Exactement. Je vais vous dire une chose, c'est que nous, avec mes activités dans la boulangerie et les taxis, je ne pouvais pas trop me permettre de partir promener. Ce n'est que depuis 2 ans que je suis en retraite. Alors nous sommes allés un jour en Italie, nous sommes allés voir Venise, nous sommes allés en Bretagne aussi. Nous commençons un petit peu à vivre, à profiter de la vie, parce que étant jeune, ce n'était pas possible.
Alors justement, une question presque pour terminer notre entretien, et si c'était à refaire, est-ce que vous mèneriez à nouveau la même vie que vous avez mené, je présume?
Je suis en train de me le demander. Vous savez, la vie était pénible quand on était jeune. 6 de famille, c'était la guerre, c'était partir travailler à partir de 13 ans, 14 ans, ben, c'était dur. Hein. Vous savez,
Oui, mais vous avez quand même de bons souvenirs, je suppose.
J'ai des bons souvenirs, mais c'était très dur. Ça, vraiment, je me demande si je recommencerai à certaines époques qui ont été très dures dans ma vie.
Jean Covin, avant de nous séparer, j'aimerais que vous nous racontiez encore un beau poème autour de ce pays qui est le vôtre, le Verdon. Allez, celui qui vous passe par la tête, vous en avez des centaines. Alors, outre l'eau, le Verdon, le minéral, la montagne, les animaux dont on a parlé, il y a aussi dans ce pays des fleurs, des plantes magnifiques. Et je crois que souvent, vous êtes là à les contempler, émerveillés, à les photographier peut-être, oui. Et à être inspiré justement par elles pour des poèmes.
Ah oui, les fleurs sur la route des Crêtes, bien, elles sont toujours tournées vers la route, et on dirait que ces fleurs vous parlent, qu'elles vous disent « mais arrêtez-vous, regardez-moi ». Alors voici un joli poème que j'ai trouvé, qui a été composé par M. François Trouche, officier de l'instruction publique, un peu modifié à certains endroits, parce que cette poésie correspond exactement à tout ce qui nous entoure autour du Verdon. Fleurs des montagnes, vous aimez comme moi, douce fleur des montagnes, les fiers élancements, la splendeur des sommets, et vous fuyez destin, champs plats et paysés, horizon sans relief, monotone campagne. Vous aimez comme moi l'ardu profil des monts, les cimes que recouvre un blanc manteau de neige, les grands rochers d'Ijouès que le froid désagrège, les ombreuses forêts, les torrents furibonds. Vous aimez comme moi l'air pur des hautes cimes, le silence profond des plateaux gazonnés, le mystère qui plane au lieu abandonné, le vertige des yeux surplombant les abîmes. Vous aimez comme moi les joyeux carillons au cou des agneaux blancs des petites clochettes, et vous aimez, n'aimez pas le vent, l'orage et les tempêtes qui soulèvent la neige en épais tourbillon. Vous aimez comme moi la vie agreste et douce de ces bons montagnards au cœur loyal et sûr qui s'écoule pareil au ruisselet très pur, dont le flot chante et fuit sous un berceau de mousse, et d'un rêve azuré la suave langueur. Vous aimez comme moi le nid de mon enfance, qui vit mes premiers pas et sut mes premiers jeux. C'est là que mes vieux jours, dans l'étang radieux, chercheront un asile au soir de l'existence.
Jean Cauvin, vous êtes merveilleux, je sais que vous êtes intarissable, vous pourriez parler encore des heures, mais l'heure approche de nous séparer. Je vous sens proche de prendre votre bâton de pèlerin pour aller sur un de ces sentiers qui sont pas loin d'ici, puisque nous sommes à la Palue, à quelques kilomètres, il y a les fameux abîmes du Verdon. Enfant et fils naturel donc du Verdon, de la Haute-Provence, Jean Cauvin, je vous remercie.
Eh bien, moi aussi, je vous remercie et le plaisir de vous revoir un jour dans notre canyon si joli, si profond. Comme dit le Verdon, je te quitte, site rempli de charme, avec tes frais vallons, tes coteaux verdoyants, tes montagnes, tes bois, tes jardins luxuriants, sur ton sol enchanteur, je reviendrai souvent.
Merci Jean Cauvin, au revoir, à bientôt.